Alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Votre émission Page à Page sur Radio Occitanie. Alors, Page à Page a 15 ans, elle vient d'avoir 15 ans cette émission en janvier dernier. Donc, voilà, donc mes pensées bien évidemment vont à Roger Lemonnier, sans qui cette émission ne serait pas. Roger est parti bien trop tôt, malheureusement, et à qui je pense à chaque Page à Page devant le micro rouge à Radio Occitanie. Alors merci Roger et bon anniversaire à Page, l'émission du livre. Alors aujourd'hui je reçois Nathalie Gautreau. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Avec qui nous allons parler écriture, puisqu'elle anime des ateliers d'écriture deux fois par mois à Toulouse et à Préserville, seule ou en duo avec une autre créative, Marie-Cécile Fourès. Alors, c'est mon amie Stéphanie, qui est une grande lectrice et une passionnée des mots, qui participe à ces ateliers et qui m'a parlé de cette belle expérience qu'elle avait vécue et m'a donné envie d'en savoir plus sur ces ateliers et sur celles qui les animent. Alors, on en parle juste après la présentation d'un roman jeunesse qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Zelda et les évaporés de Florence Aubry, publié aux éditions Le Rouergue. Alors, c'est un roman pour les adolescents à partir de 13 ans, mais enfin, les âges sont toujours un peu... voilà, ça peut être avant, ça peut être après, qui aborde un thème sensible de notre société actuelle, celui des disparitions d'adolescents, que ce soit des fugues ou quand ils sont victimes de disparitions. Au contraire, alors c'est l'histoire de Zelda, une étudiante en histoire, mal dans sa peau et dans sa famille, en rupture de la fac, et qui va trouver un dérivatif à son mal-être en se focalisant sur des disparus de sa région. Alors elle va notamment mener l'enquête sur le cas de Clément, un adolescent en fauteuil roulant qui n'a plus donné de nouvelles depuis bien longtemps. Alors c'est un roman qui explore différents destins d'adolescents et qui se construit à deux voix, celle de Zelda et celle de Tom, un de ces jeunes ayant décidé un jour de tout quitter. Alors c'est un roman où les voix se mêlent, se croisent et tissent un patchwork d'émotions, de suspense et puis de réflexion aussi. Alors l'auteur, Florence Aubry, vit dans la région Occitanie, près de la mer, et partage son temps entre l'enseignement et l'écriture. Elle est l'auteur d'une quinzaine de romans pour adolescents, dont entre autres Titan Noir, publié aussi aux éditions du Rouergue. Alors je ne résiste pas à vous lire la première page. Alors c'est Tom qui commence en fait le roman, puisque bon, c'est alterné entre Tom et Zelda, comme je l'ai dit auparavant. Alors donc la première page, c'est Tom qui commence, qui l'écrit et qui dit: pour les gens de la région, le 7 janvier est le jour de la grande inondation. Pour ma mère, il est celui de ma disparition. Pour moi, le 7 janvier est le jour de la mort de Vasco. Je m'appelle Tom, j'ai 17 ans. Voilà, ainsi commence donc le roman Zelda et les évaporés de Florence Aubry aux éditions Le Rouergue.
Page à page, Claire Ambille.
Merci Alex pour la technique de cette émission. Nathalie, ce roman, ce thème des disparitions d'adolescents, ça t'inspire?
Oui, ça me parle aussi, oui, par rapport à mon métier d'enseignante, puisque oui, dans mon autre vie, je suis professeure de français. Et on a des difficultés parfois à trouver l'inspiration, à proposer des œuvres justement pour nos élèves. Donc, je retiens.
Ah, tu retiens le titre?
Oui, tout à fait. Je pense que ça peut les intéresser, ça peut leur parler. J'ai des élèves en plus qui sont en quatrième et c'est une période un petit peu difficile où il y a beaucoup de questions,
tout à fait,
des conflits avec la famille aussi parfois.
Oui, donc, aussi. Et puis là, je corresponds parce que bon, là, ils donnent toujours un âge dans les livres parce qu'il faut donner un âge, hein, forcément, pour le public auquel il est destiné. Mais 13 ans, voilà, ça peut. Puis en plus, en cours, je veux dire, avec donc toi comme guide pour les guider dans la lecture et le... Et voilà, pour découvrir cette histoire, je pense que ça peut effectivement être une bonne idée. Alors, on va parler un petit peu de toi. On va te présenter, Nathalie. Donc, Nathalie, c'est ton prénom de plume.
Oui, c'est ça.
Tu te définis comme une créative touche-à-tout qui a toujours aimé imaginer, dessiner et concevoir.
Oui, c'est dans mes veines depuis toute petite.
Oui. Alors, la lecture et l'écriture sont arrivées très tôt dans ta vie. Et puis, même les concours d'écriture et d'invention que tu as remportés dans ton Maroc natal.
C'est ça. En fait, mon père a voulu m'apprendre à lire assez tôt, avant le CP. Et j'ai eu un souvenir assez mémorable, je pense, qui m'a liée de façon très particulière à la littérature, parce que la maîtresse en maternelle, sachant que j'étais capable de lire, m'avait demandé de faire la lecture à mes camarades.
Ah oui.
Et voilà, j'avais des tonnes de perdus écarquillés face à ce pouvoir que je possédais.
Et oui, oui, oui.
Je l'ai vécu comme ça et ça m'a vraiment marquée. Puis par la suite, ma mère, qui était professeure de français, elle aussi, m'a confortée dans ce goût des lettres, de l'écriture aussi, parce qu'elle écrivait des petits poèmes qu'elle partageait avec moi. Donc voilà, du coup, comment ça a commencé, en fait.
Oui, donc tu es vraiment, voilà, j'allais dire, tombée dans la
marmite.
Dans la marmite des mots. dès toute petite, tu étais prédestinée, on va dire, à être toi-même professeur et puis à
peut-être,
animer,
ouais,
donc des ateliers d'écriture pour aussi pousser les autres, aussi ceux qui n'osent pas peut-être.
Oui, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Il n'y a que des rendez-vous, donc voilà.
Tout à fait, comme dit le poète. Alors ensuite, c'est Toulouse à l'adolescence et puis la création d'un jeu ludo-éducatif à destination d'une orthophoniste pour la rééducation logico-mathématique de ses patients. Alors là, je me suis dit, mais là, c'est des maths, là, c'est plus des mots.
Oui, hein. En fait, c'était des objets qui étaient à créer, et puis on en a beaucoup discuté, et c'est le côté justement un peu créatif, comme tu disais, je suis touche à tout, j'ai un amour particulier pour l'écriture, mais j'aime créer de manière générale, donc même fabriquer des petits objets, des choses comme ça.
Donc c'était des objets, en fait,
ouais,
pour...
Oui, c'était des personnages, en fait. Alors,
d'accord.
Je t'avoue que je m'en souviens plus,
ouais,
vraiment aujourd'hui. Ça avait une forme cylindrique, avec des tailles différentes, des visages différents aussi.
D'accord.
Et il était question, voilà, de pouvoir aider les enfants, parce que ces patients sont des enfants,
mm-hmm,
à pouvoir raisonner de manière logique en utilisant ces un peu comme des poupées, si tu veux.
Mm-hmm.
Donc voilà.
Ouais, enfin bon, à l'adolescence, c'est vrai que c'est
ouais,
de créer un jeu.
Ouais, j'étais très fière.
C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est ça que je veux dire. C'est quand même.
Oui, oui, je pense que ça fait
partie marquant,
des,
ça fait
des
ma...
pierres en fait,
oui,
qui sont sur mon chemin.
Bah oui, tout à fait. Voilà. Oui, ça. Alors après un bac littéraire, là aussi,
oui,
c'est une formation en arts graphiques et communication visuelle. Alors qu'est-ce que c'est ça?
C'est une école qui s'appelle Axe Sud, qui est à Toulouse, et qui forme des personnes qui vont travailler dans le monde de la publicité essentiellement, des designers,
Donc c'est plus du dessin là, c'est peut-être plus du...
C'est un peu de
du
tout,
dessin,
du
ouais,
dessin, de la sculpture, de la peinture.
D'accord.
Beaucoup de publications assistées par ordinateur aussi, de la 3D, ils en font. Moi j'en ai pas fait, je me suis arrêtée avant. Parce que j'ai adoré la formation,
oui,
mais je ne me sentais pas à ma place.
D'accord.
C'était peut-être trop centré sur le dessin, justement.
Oui. Il n'y avait pas assez les mots,
oui,
il n'y avait pas assez le.
C'est ça. Et mes enseignants m'avaient dit à l'époque qu'ils avaient remarqué justement que j'étais hyper à l'aise avec les mots, les concepts,
mm-hmm,
que j'avais toujours de bonnes idées. Et que la réalisation, elle était là, mais c'était
pas ta passion.
Voilà.
Voilà,
et ça se ressentait, je pense.
Eh oui.
Puis moi, j'étais assez angoissée.
Alors donc, finalement, tu fais un CAPES de lettres modernes.
Voilà.
Et là, on retrouve eh bien, ta passion, voilà, de la lecture, de la littérature.
Ça.
Et tu enseignes eh bien, le français aux collégiens depuis une dizaine d'années.
Oui.
Donc la transmission, quelque part, de ta passion des mots, de la lecture, avec tes élèves de différents niveaux.
C'est l'idée, parce
c'est l'idée.
Que à la base, je n'étais pas attirée par l'enseignement. En fait, ma mère était enseignante et je l'ai eue comme professeure de français.
Donc, alors, ça fait quoi d'avoir sa mère comme professeure de
drôle.
Français?
C'est drôle. C'est drôle. Oui, c'est drôle de la vouvoyer, de l'appeler madame.
Et oui.
Je m'en amusais beaucoup, en fait. Souvent, quand elle nous demandait, par exemple, de faire signer une évaluation, je disais « Ah, madame, ma mère est absente en ce moment, je ne vais pas pouvoir. » Mais non, ça s'est très bien passé, c'était plutôt drôle. Mais par contre, j'ai vu en fait tous les aspects du métier. J'ai vu.
Oui, parce que bon, voilà, l'enseignement, c'est bon, la pédagogie, c'est tout voilà le rapport avec les, enfin avec les élèves, puis bon, c'est avec ses collègues de travail. Enfin voilà, c'est tout un programme à suivre,
beaucoup de travail
à la maison, voilà, oui, tout à fait.
Moi, j'étais à la fois attirée et en même temps. Ça me semblait être trop prenant, en fait. C'était une mission qui me semblait trop prenante. J'avais envie de quelque chose de plus léger. Et puis, finalement, j'y suis venue pour plein de raisons. Et je dirais que la principale, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie, comment je pourrais gagner ma vie tout en restant quand même connectée avec
ce que
j'aime le plus.
Ouais,
voilà. Et pour moi, l'enseignement, c'était idéal. Alors, je croyais très naïvement à l'époque que pendant les vacances, j'allais pouvoir écrire.
Et oui.
Et en fait, non, pas du tout.
Non, parce que tu prépares déjà la rentrée.
C'est ça.
Voilà, oui, c'est ça. Quand on dit que les profs ont beaucoup de vacances,
mais c'est vrai,
aussi préparer les rentrées.
C'est un travail qui est conséquent.
Et puis,
on a besoin de vraiment se déconnecter à un moment donné.
Avoir une classe de, je ne sais pas combien tu as d'élèves dans
une
classe.
Une trentaine d'élèves.
Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Voilà, donc je suis toujours admirative devant les personnes qui arrivent à supporter des enfants, des classes entières, toute une journée, semaine après semaine. Et je dis, oui, ils ont vraiment besoin de vacances, forcément,
donc,
pour
du
décompresser.
Coup, tu vois, justement, comme ça demande cette espèce de sas de décompression, j'ai décidé d'être à mi-temps dans l'enseignement. Et j'ai trouvé mon équilibre comme ça.
Ah bah oui, voilà, comme ça à mi-temps, et comme ça tu as l'autre partie
pour les ateliers
d'écriture, voilà, et tout le reste. Alors tu ajoutes aussi à tes cordes, d'autres cordes à ton arc avec la musique et le théâtre, alors avec ton mari qui était un artiste complet, comme tu le définis, et ta grande source d'inspiration, donc musique et théâtre.
Oui, en fait, donc mon mari, Marc-Aurel Pastor, il est auteur, compositeur, interprète, comédien, voix off, et je suis complètement amoureuse de sa voix. Il a une voix grave qui me fait vibrer. Et oui, c'est une source d'inspiration pour moi, une respiration aussi, on peut dire. Et voilà, je suis amenée, là c'est très récent, c'est un peu un scoop ce que tu es en train de dire.
D'accord.
Parce que c'est vraiment en préparation. Mais oui, je suis amenée à collaborer avec lui dans ce domaine-là. Ouais,
d'accord.
Dans la musique et le théâtre.
À suivre alors.
C'est ça.
Alors, les ateliers d'écriture. Donc, depuis 2015, tu animes plusieurs ateliers d'écriture, seul ou en duo avec Marie-Cécile Fourès, à Toulouse ou à Préserville. Alors, avec ton nom de plume, donc Nathalie Gautreau. Alors, qui a une signification, ce nom de plume
Nathalie, c'est mon deuxième prénom. Et Gautreau, c'est le nom de jeune fille de ma mère.
Donc, voilà.
Donc, j'ai voulu faire simple, quelque chose aussi qui me corresponde, où je puisse facilement me retourner si on m'appelait.
Oui, tout à fait.
Et effectivement, aujourd'hui, je réponds aussi bien à Aline et Nathalie. Donc,
d'accord.
Ça peut être parfois des situations cocasses. Hein.
Oui, j'imagine, oui.
Ça m'arrive de, voilà, quand je suis... par exemple, dans mon établissement, et que j'entends Nathalie, je dis oui. Et en fait, non, c'est pas de moi qu'on est en train de parler du tout. Et inversement, voilà.
Et inversement, oui, quand on dit Aline, et puis voilà.
Je crois qu'on est toujours un petit peu schizophrène quand on a un nom de plume.
Alors, par contre, donc, qui est Marie-Cécile Fourès? Alors, tu dis qu'elle est ton mentor. Elle anime elle-même des ateliers d'écriture.
C'est ça,
depuis
plusieurs années.
D'accord.
Elle a été formée par les trans à Paris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de participer moi-même à un atelier d'écriture.
Qu'elle animait. D'accord.
Que j'avais trouvé sur Internet.
Et oui, donc par hasard, vraiment par hasard. Tu avais envie de participer à un atelier d'écriture.
Exactement.
Et c'est tombé que c'était le sien.
C'est ça.
Voilà.
Et elle est aussi auteure. Elle avait écrit un livre que j'avais lu entre deux. Et en fait, donc, la première fois que j'ai participé à un atelier d'écriture avec elle, j'étais mais alors complètement coincée, le bec cloué, la plume rentrée. J'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Et il faut savoir que Marie-Cécile est un soleil. Et dès qu'on est en contact avec elle, on est obligé de se détendre.
D'accord, mais ça c'est magnifique. Et si elle nous écoute, elle doit être
oui, bah, c'est
contente.
Que je
l'aime. Bah, voilà.
Et puis bah, voilà, il s'est passé quelque chose ce soir-là. J'ai formulé en fait le souhait de devenir un jour moi aussi animatrice d'atelier d'écriture et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, même si elle a des difficultés d'audition.
Oui,
elle a très bien entendu ce soir-là.
Et donc
on a collaboré assez rapidement. Au départ, on a collaboré pour un webzine culturel toulousain qui s'appelle La Ville en Rose, qu'on a créé ensemble sur une idée originale de Marie-Cécile. Ce webzine, il existe toujours. À l'origine, on avait un site sur lequel on publiait des articles. Et puis, on a dû le fermer parce qu'on le faisait de manière bénévole. Ça nous demandait énormément de temps et d'énergie. Donc, on présentait les artistes et les artisans toulousains, les écrivains toulousains. Donc, on faisait un petit peu comme ce
oui,
que tu fais
comme
dans
page
ta rubrique,
à page. Voilà, oui.
Et puis, la page Facebook, La Ville en Rose, je vais y arriver, La Ville en Rose, avec des petits tirets, c'est VI-2L-E en rose, c'est un jeu de mots entre
oui,
La Ville en Rose
d'accord,
et
oui,
La
oui,
Ville
oui,
en Rose.
Voilà. Oui, tout à fait.
La page Facebook existe toujours, on peut nous suivre, on peut s'abonner. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent et on continue comme ça de relayer tout ce qui se passe au niveau culturel à Toulouse et dans ses environs. Mais on n'a plus
bien.
De site. Voilà.
Oui, voilà. Ben oui, donc c'est bien. Et donc, finalement, ça t'a donné envie d'animer toi aussi donc un atelier
oui.
pour, je te cite, pour tendre la main à ceux qui n'osent pas.
C'est ça, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans la même situation. Donc, je sais ce que ça fait de ne pas oser. Et c'est la vraie différence, je trouve, entre un écrivain, quelqu'un qui sera lu, vu, entendu, et quelqu'un qui écrit pour lui-même. La différence, c'est qu'il faut oser, tout simplement.
Donc c'est un premier pas, un premier vol, comme tu le dis, et qui fait beaucoup de bien.
Oui.
Ça, c'est un peu comme une libération.
Oui, je pense, parce qu'au tout départ, on peut se sentir un petit peu coincé, un peu rouillé, voire verrouillé. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme une gymnastique. Non seulement les idées viennent de plus en plus facilement, de manière fluide. Ça,
oui,
c'est
plus on s'exerce, plus
c'est ça.
Voilà.
Puis le groupe est toujours ultra bienveillant.
Alors justement, on va venir voilà, dans le déroulement d'un atelier d'écriture. Alors donc, il y a deux samedis matins par mois, c'est ça. Alors durant 2 heures, dans un salon de thé toulousain. Donc il y a plusieurs adresses. On donnera les adresses à la fin pour que les auditeurs puissent... aller voir et ou alors une charmante bibliothèque en briques roses au milieu des prés voilà donc c'est soit à Toulouse dans le centre à Toulouse soit à Préserville donc au milieu des prés dans la bibliothèque de Préserville et alors les drôles d'oiseaux à plumes comme tu les appelles vont lâcher donc leur ancre dans une ambiance détendue bon enfant et bienveillante.
C'est ça, c'est un groupe qui est assez restreint. On accepte 10 participants maximum.
Oui, parce qu'après, sinon, ça fait un peu trop.
Oui, surtout si on veut faire beaucoup de jeux et puis lire ensuite ses créations, parce qu'on prend le temps de les lire, de les écouter.
Alors, tu dis que ce n'est pas obligé, mais fortement recommandé.
C'est ça.
Il faut oser, c'est ça.
Exactement. Puis on s'enrichit énormément en écoutant aussi
les autres. Partager. Le partage, en fait, c'est
tout à fait. C'est un moment de partage, d'échange. Et très souvent, la connexion se fait même au-delà des ateliers d'écriture. On a des participants qui deviennent amis, même à l'extérieur.
Ah, en dehors, d'accord. Ah,
parce
qu'il
se passe des choses fortes.
Ouais. Alors, en début d'atelier, tu dis qu'il y a des petits jeux, pour se mettre un peu, j'imagine, dans l'ambiance,
Alors, la plupart des jeux sont brefs pour les raisons qu'on vient d'expliquer. On n'a que 2 heures. Voilà, si on est assez nombreux, il faut qu'on puisse avoir le temps vraiment de profiter, d'écrire et de se lire.
Tout à fait.
Donc, ce sont des jeux brefs, effectivement. Ce sont des jeux en solo, en duo, des jeux collectifs qui vont être tournants, c'est-à-dire qu'on va avoir une feuille qu'on va faire passer à tous les participants qui vont écrire dessus. Ce sont des jeux qui sont très variés, la plupart du temps ludiques, amusants, parfois émouvants, tous différents, avec des supports qu'on essaye aussi de multiplier pour inciter à la création. Et voilà, à chaque fois, on a une contrainte pour l'écriture. Et cette contrainte, il ne faut pas la prendre comme une prison, mais au contraire comme un déclencheur. Hein. L'idée, c'est de lancer l'inspiration. Et on est après...
Sur un thème ou sur, donc sur une phrase ou sur un mot ou,
oui, concrètement, ou on va avoir par exemple une photographie à partir de laquelle on va travailler, une musique.
Alors pour la photographie, par exemple, je pense à mon amie Stéphanie. Qui elle est malvoyante. Alors, comment ça se passe, par exemple, pour une photographie pour elle ?
Il y a deux choses à dire. La première, c'est que grâce à Stéphanie, justement, j'ai dû ruser pour trouver des supports qui soient adaptés
à sa vision.
Exactement. Mm-hmm. Et j'ai trouvé le challenge formidable parce que ça m'a permis, moi aussi, de me renouveler. Donc, on a utilisé beaucoup de choses à toucher, à sentir, à entendre aussi. Des parfums, etc. Mmh. Et puis sinon, pour les photos, elle a déjà eu un jeu à faire avec des photos. Ben on lui décrit tout simplement ce qu'il y a sur la photo.
D'accord. Voilà, il y a de l'audiodescription qui est faite.
Oui.
Voilà. Alors, tu dis aussi donc ces ateliers, alors bien sûr, pas de limites, pas de frontières à l'imaginaire, pas de barrières, sinon celles que l'on s'impose soi-même. Pas de différence, pas de niveau, pas de compétition et pas d'âge. Et oui, l'âge. À partir de quel âge on peut venir dans un atelier d'écriture ?
Moi, personnellement, j'ai déjà accueilli des adolescents, mais c'est vrai que c'est plutôt réservé aux adultes, ces ateliers. Marie-Cécile anime un atelier qui est pour les adolescents, qui est à destination des adolescents, mais sinon, c'est plutôt pour les adultes. Mmh. Et
jeunes adultes.
Si tu veux, ce n'est pas qu'on exclut du tout les enfants, c'est plus pour se sentir totalement libre. Et si tu veux pouvoir parler de tout, à un moment donné, les jeunes oreilles ne peuvent pas tout entendre. Donc voilà. Comme on se lâche parfois, on va loin, même dans des textes érotiques, hein, ça peut arriver.
Oui.
C'est toujours bien d'être...
Je sais que tu en as eu aussi deux. Tu as eu Salomé et Clément qui sont venus lors d'un atelier.
Oui. Donc, j'accepte des personnes plus jeunes.
Plus jeunes, voilà. Mais c'est bien, justement, ça permet de confronter les univers, enfin, genre de... Voilà, de...
Ah, c'est très intéressant.
C'est intéressant, c'est enrichissant humainement, je trouve.
On a eu le plus jeune de mes participants avait 13 ans.
Ah oui.
Et le plus âgé, il a plus de 70 ans, donc...
Ah oui.
C'est super agréable, justement, d'avoir toutes les générations.
Tout à fait, c'est intergénérationnel. Alors, les participants viennent et reviennent, donc avec leurs univers différents et leur passion qui, elle, est commune, hein, le désir d'écrire, la passion des mots. Et donc, c'est une expérience humaine, sans jugement, sans correction, sans cours, avec juste le bonheur simple de pouvoir unir et réunir les sensibilités, comme tu l'expliques. Et l'écriture, donc, qui évolue aussi au fil des ateliers, des séances, où chacun s'écoute, s'influence et s'inspire finalement comme une... c'est ça ?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout là pour, comme tu l'as dit, donner des cours d'écriture. De toute façon, je serais bien mal placée pour me donner ce statut-là d'enseignante. Voilà, j'enseigne le français, mais je n'enseigne pas l'écriture. Mais par contre, le fait d'être en contact, de s'écouter, d'entendre... les sensibilités, les univers des uns et des autres, ça influence nécessairement notre écriture, ça nous inspire et donc ça évolue, ça se développe.
On s'enrichit mutuellement en écoutant l'autre et puis ça peut influencer l'atelier d'après, son écriture.
On a des auteurs qui sont venus participer à nos ateliers et qui ont déjà trouvé l'inspiration à travers nos jeux.
C'est
arrivé.
Donc c'est vraiment très enrichissant. Et donc toi, tu animes l'atelier, mais tu participes aussi. Tu es à la fois animatrice et participante.
Oui.
Alors pour connaître comme le temps nous rattrape toujours trop vite sur Radio Occitanie dans Page à Page, alors pour connaître les séances proposées à Toulouse, eh bien, il faut se rendre sur le site Hello Asso, H-E-2-L-O Asso, A-2-S-O, Dany vers l'envol.
C'est ça.
Et là, donc, on a les différents lieux de Toulouse avec les dates des prochains ateliers. Et pour les ateliers, donc, à la bibliothèque de Préserville, un covoiturage est même possible depuis Toulouse. Et c'est avec l'association donc Chemin Croisé. Et puis il y a toutes les informations, enfin toutes les infos qu'on peut retrouver sur ton Facebook, le profil de donc Nathalie Gautreau, G-A-U-T-R-E-A-U. et sur le compte Instagram, instagram@gautreauteur, G-A-U-T-R-E-A-U-T-E-U-R. J'ai trouvé que c'était très joli comme, voilà, comme petit jeu de mots. Oui, voilà, c'était Gautreauteur, voilà. Alors, bien sûr, peut-être de ces participants naîtra peut-être le futur Goncourt, on ne sait pas. Futur Goncourt ou...
Ah oui, bah, souhaitons-le.
Et oui, ça peut bien. Aussi, parce que bon, on peut aussi désirer être publié, même si on écrit pour soi, un jour, on peut peut-être franchir le pas.
Absolument.
Aussi, peut-être toi aussi, tu as envie.
Oui, oui, ça reste voilà. Un de mes projets.
Bon, donc à suivre. Oui. Alors, on se quitte. Alors, merci déjà, Nathalie, d'être venue à Page nous
merci
présenter donc ces
reçu.
Ateliers d'écriture et partager avec nous eh bien, ta passion donc, des mots, de l'écriture. Et puis, on se quitte en chanson avec celle d'Antoine Ellie qui s'appelle « La rose et l'armure », choisie par mon invité. Alors, pourquoi ce choix, Nathalie?
Parce que c'est un artiste dont j'adore l'écriture, qui est très sensible, qui est brute. Et qui correspond aussi à sa voix. Il a une voix grave et rauque, mmh. Un univers très original qui est entre le rock et une musique plus urbaine, un peu hip-hop. Donc, pour toutes ces raisons. En voilà, plus, la chanson « La rose et l'armure », je la trouve très, très belle. Donc, je trouvais que c'était une belle façon aussi de...
De se quitter.
Oui, voilà.
Bah, merci beaucoup, Nathalie. Et puis, à bientôt, j'espère.
Avec plaisir.
Et on écoute alors donc la chanson « La rose et l'armure » à Diciat.
Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours, tenant la pose, quand les regards l'éclaboussaient, elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait mon rose d'être seul au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire alors on s'est allongé. Avec ma rose j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin la route appelle alors je lui ai proposé. Si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Traversant tous les bruits du monde avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre aux plaies profondes, un guerrier triste et abîmé. Comment, ma rose, peux-tu subir pareille offense à ta splendeur? Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur? Mais elle m'arrête et puis m'embrasse. Ma rose rit et moi je pleure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, maintenant je suis sûr que je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, que ça peut être dur. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, depuis que ma vie dure, je n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures. Jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure.